Alors, la semaine dernière, on avait vu les généralités sur l'Épître aux Hébreux. Je ne reprends pas ça. Chapitre 1, chapitre 2, un petit peu en général. Et j'aimerais revenir sur un verset dans le chapitre 2 qui m'a interpellé et que j'aurais aimé développer plus en détail avec d'autres textes des Écritures. Donc, on est toujours dans Hébreux, mais on va aller de là et puis aller ailleurs. J'ai reçu durant la semaine une trentaine de questions sur l'Épître aux Hébreux. Donc, je ne sais pas si je les traiterai toutes. Et une suggestion aussi dimanche dernier, qui était d'aborder dans un autre moment le thème des anges, puisque le chapitre 1 et 2 développent le fait que Christ est supérieur aux anges. Alors on prendra ça une autre fois aussi, quoi. C'est noté. Aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter sur une petite portion, Hébreux 2, de 13 à 18, et un verset en particulier. À partir du verset 14, Hébreux 2, 14. Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, donc les enfants de Dieu, nous tous, tous les êtres humains en fait, lui-même, Christ, l'a aussi partagé de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. Et c'est cette phrase qui m'a arrêté. Hein. Celui qui exerçait le pouvoir de la mort, il l'a rendu impuissant, afin de libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. C'est une phrase qui est assez lourde de sens. Il y a deux mots qui sont très pesants, mort et esclavage. Hein. Et là, ils sont un lien direct. Et je réfléchissais un peu à ce sujet, parce que je pensais depuis le début de la semaine à ce thème-là. Pour nous, ça paraît un peu lointain, souvent, l'esclavage, alors que c'est une réalité encore contemporaine. Hein. Déjà, une chose qu'on oublie, c'est que depuis l'Antiquité, et en tout cas dans toute l'Antiquité, mais après aussi, malheureusement, l'économie reposait sur l'esclavage. C'était pas possible sans les esclaves. Et c'était une des raisons, pas la seule, il y avait le côté territorial aussi, et puis tout le reste, l'ambition humaine, mais une des raisons essentielles des guerres, c'était se réapprovisionner en esclaves. Parce que sans esclaves, impossible de cultiver les champs, de ramasser le raisin, etc., etc., de faire tourner les meules. Donc, les guerres avaient entre autres pour but d'aller rechercher de la main-d'œuvre. Hein. Puis, bien sûr, il y avait ceux qui faisaient du commerce avec. Mais l'économie tournait avec ça. Et puis, c'est quelque chose que nous, on réalise peut-être pas aujourd'hui, même si les choses n'ont pas tant changé que ça. Mais c'est un petit peu la forme qui a changé. Hein. Les chaînes ne sont plus les mêmes. Et voilà. Donc, c'est une chose qui est importante. Qu'est-ce que c'est un esclave, par définition? Ben, c'est quelqu'un qui a aucun droit, qui est devenu la propriété de quelqu'un d'autre. En général, ben c'est, enfin on verra, il y a une exception, mais c'est jamais de son propre choix qu'on devient esclave. Hein. On a été capturé par quelqu'un qui est plus fort ou plus violent, ou etc., etc., et qui a pu déclarer être le propriétaire, alors que bien évidemment, normalement, personne ne peut être propriétaire d'un autre être humain. Hein. Mais voilà, et l'esclavage est basé là-dessus. Et juste avant qu'on continue, et de voir spécifiquement par rapport au sujet de l'esclavage dans la peur de la mort, je voulais vous faire écouter un petit morceau de Francis Cabrel, qu'il a écrit pour les 200 ans de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Alors, n'était pas le seul endroit. Hein. Je rappelle que les esclaves aux États-Unis qui étaient utilisés là-bas étaient importés essentiellement par les protestants français, hein, aussi par les portugais, enfin, que en Afrique déjà, ils étaient eux-mêmes vendus par d'autres. Enfin, donc c'est un système qui englobait malheureusement tout le monde. Hein. Puis là, c'est un morceau qui nous rappelle un petit peu ça. Alors, on peut l'envoyer en même temps, voilà.
Cent ans dans la peau de l'esclave, et juste après, cent ans de plus.
chercher des miettes sous les tables avant que les blancs ne marchent dessus. Dormir sur des paquets de planches, chanter seulement le dimanche. Oh, tu vois la femme noire dans le rôle de la bonne, avec tout à côté, tout tendu son bonhomme. Après ça, faut pas que tu t'étonnes, c'est eux qui ont fait, eux qui ont fait. Somehow, c'est Charlie Patton, Howling Wolf et Blind Lemon. Bien rouge le sang de l'Afrique sur la jolie fleur du coton. La toute nouvelle Amérique, la belle démocratie, welcome. Bateau déportant les villages au bout de l'immense voyage. Oh, gravé dans la mémoire pour des années-lumière, chaque larme d'ivoire et chaque collier de fer. Après ça, faut pas que tu t'étonnes, c'est eux qui ont fait, eux qui ont fait. Somehow, c'est Charlie Patton, Howling Wolf et Blind Lemon. Plaire aux marchands de fantômes, eux qui ont fait, elle qu'on achète et lui que l'on donne, eux qui ont fait, naître avec la peine maximum, eux qui ont fait, toujours vivant dans ce que nous sommes, eux qui ont fait, peuple interdit du reste des hommes, eux qui ont fait, cherchant le bleu de l'ancien royaume. C'est eux qui ont fait, faut pas que ça t'étonne. Somehow c'est Charlie Patton, Blind Blake et Willie Dixon, Marianne et Robert Johnson, Howling Wolf et Blind Lemon. Somehow c'est Charlie Patton.
De ce morceau, c'était de montrer que ces gens qui ont souffert ça ont produit cette musique-là qu'il aime, hein, entre autres, tout en rappelant ça. Mais c'est juste, je trouvais que c'était quelque chose qui nous rappelle, voilà, la réalité de l'esclavage, c'est ça. Hein. Et bien sûr, y a, dans toutes les cultures, dans beaucoup d'autres endroits, il n'y a pas que cet esclavage-là, mais il est là. Et la question qu'on peut se poser, naïvement que je me posais quand j'étais plus jeune, je ne comprenais jamais pourquoi les esclaves restaient esclaves. Hein, parce que, on voyait des photos comme ça, il y a 200 esclaves, il y a un maître, et pourquoi ils restent ? Ben, je veux dire, normalement, c'est voilà. Et la réponse est toujours la même, c'est la peur. Hein. La peur fait qu'un homme seul, et pas costaud en plus en général, ou pas spécialement, mais par la peur peut tenir des centaines et des centaines de gens dans l'esclavage. Hein. Et c'est pour ça que c'est comme ça qu'on voit que cette phrase qu'on a lue dans l'Épître aux Hébreux, hein, retenez la peur de la mort, retenez leur vie durant dans l'esclavage. Pour que nous restions esclaves, il faut qu'il y ait de la peur. Hein. Et alors on pourrait parler aussi des dictatures ou de toutes ces choses-là. Hein. Comment c'est possible qu'un tout petit groupe de personnes peut tenir tous les autres sous leur autorité ? Ben, la peur aussi. Hein. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est la peur et le compromis. Si vous lisez un petit peu des romans ou si vous regardez des films ou des séries qui parle sur la mafia ou ce genre de choses pas très glorieuses. Hein. On retrouve toujours les mêmes fonctionnements. Bien sûr, c'est développé dans un côté dramatique pour le cinéma ou pour la littérature. Hein. Mais c'est arriver à compromettre tout le monde un petit peu pour que plus personne puisse dénoncer les autres. Hein. C'est ça, la corruption. Il suffit que voilà, tu fais un petit compromis, je te donne ça en échange, et puis après, ah mais si tu veux me dénoncer pour ça, moi je te dénonce pour ça, et puis tout le monde se tient. Hein. C'est une chose qui m'a frappé quand je suis arrivé en Roumanie, naïvement, juste après la Révolution. J'imaginais que, ben, avant la Révolution, il y avait les méchants et les gentils, ceux qui exploitaient les autres, et puis les autres qui étaient purs, quoi. Et puis, ben, en vivant dans le pays, en parlant avec les gens, alors bien sûr, il y a des degrés, hein. C'est pas la même chose. Ceux qui ont envoyé des milliers de gens en prison et qui les ont fait tuer ou torturer. Mais ce qui était terrible, c'est qu'en fait, je ne sais pas si j'ai rencontré une seule personne qui avait les mêmes propres complètement. Alors, il y a des choses qui paraissaient ridicules. Hein. J'ai profité d'un petit passe-droit pour avoir un peu plus de savon. Et donc, on pourrait dire, il n'y a rien de mal là-dedans. Mais cette petite peur-là faisait que ah, je ne peux pas dénoncer celui un peu plus grand qui est au-dessus, qui lui-même est là. Et puis, tout le monde était tenu par la peur dans l'esclavage d'une façon de vivre. Et puis, une autre caractéristique de l'esclavage, c'est que si je veux garder des esclaves, il faut quand même que je les garde en vie. Parce qu'un esclave mort ne sert plus à rien. Et tout le dosage dans l'esclavage est là. Et alors, ce n'est pas un message selon Saint Cabrel ce matin, mais il a une autre formule que je trouve assez incroyable pour décrire ça, dans un morceau qui s'appelle « Prendre ma place dans le trafic hein, », qu'il a écrit dans les années début des années 80. Et puis, donc, il parle de voilà, prendre sa place dans le trafic, hein, travail, métro, boulot, dodo, tout ça. Il dit « J'aimerais que quelqu'un vienne et me délivre, mais celui que je viens de choisir m'a donné juste assez pour survivre et trop peu pour m'enfuir. Et je reste prisonnier de mes promesses à ces marchands de tapis qui me font dormir sur de la laine épaisse et qui m'obligent au bout de chaque nuit à prendre ma place dans le trafic. Hein. Juste assez pour survivre et trop peu pour s'enfuir. » Et ça, c'est le principe de l'esclavage que nous vivons. Alors, à notre époque, il y a des esclaves dans le sens littéral. Hein. Il faut le savoir, dans plusieurs parties du monde. Hein. Donc, avec des chaînes, et puis qu'on peut mettre à mort comme ça juste parce qu'on ne les veut plus. Hein. Mais si on parle que de ça, c'est un peu lointain pour nous, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. Hein. Mais l'esclavage, pour nous, souvent prend cette forme-là. Hein. Juste assez pour survivre et trop peu pour m'enfuir. Combien de fois on parle avec des gens qui passent leur vie à faire un travail qui les détruit, qu'ils n'aiment pas, qui même des fois qu'ils jugent limite morale, mais hey, oui, mais si je pars, je fais comment hein? Et puis du coup, ben, on reste parce que au moins là, je ne meurs pas de faim. Quoi. Mais du coup, je ne fais pas ce qu'il faut pour passer à autre chose. Et puis voilà. Hein? Et tous ces principes-là se retrouvent spirituellement et le diable qui a pour but de détruire nos vies, de détruire notre ressemblance à Dieu, de voler notre liberté. Jésus décrit le ministère du diable comme ça. Il dit, le voleur est venu pour égorger, piller et détruire. Hein? Donc c'est, voilà, c'est son boulot à plein temps. C'est le mal pour le mal. C'est pas juste le mal pour obtenir quelque chose de, qui me semble bien pour moi. C'est le mal dans le but de détruire l'autre gratuitement. Hein? Souvent je dis, quelqu'un qui vole une voiture parce qu'il n'a pas de voiture, c'est mal. Hein? Attention, je condamne, c'est mal. Mais je comprends. J'ai pas de voiture, tu as deux voitures, je t'en vole, tu n'en as qu'une, je t'en vole une. Hein. C'est juste mal. Mais je vois une voiture et je la brûle, ça c'est une autre forme de mal. C'est pas pour en profiter, c'est juste pour détruire. Hein. Le diable est dans ce mal-là, ben, dans l'autre aussi. Mais dans l'autre, l'égoïsme ou la bêtise suffit. Mais ce mal qui veut juste détruire, hein, parce que le diable est en guerre contre Dieu, parce qu'il le hait pour des raisons personnelles, on pourrait dire. Et nous nous retrouvons, nous, impliqués là-dedans. Et bien sûr, la mort est l'outil suprême pour nous tenir dans l'esclavage. Ce qui paraît ridicule, parce qu'on pourrait dire, mais de toute façon, puisqu'on va mourir, mourir pour mourir, pourquoi pas se révolter hein. Mais ça ne fonctionne pas comme ça en général, hein, parce qu'on tient à la vie. Et on préfère vivre esclave souvent que mourir. Il y a des exceptions là aussi. Hein. L'histoire nous raconte l'histoire, des faits historiques. Hein. Ces esclaves qui, plutôt que de se retrouver esclaves, donc on parle de lorsqu'on les esclaves africains qui partaient aux États-Unis, qui préféraient se jeter par-dessus bord dans les bateaux avec leurs chaînes, donc en sachant qu'ils allaient couler, hein, plutôt que de vivre en esclave sur l'autre pays. Donc ça existait aussi. Hein. Mais on a parlé la semaine dernière, j'ai parlé de ce que Christ a fait pour nous libérer. Hein. Christ qui vient et puis qui s'incarne, qui vient comme nous, qui meurt, qui ressuscite. Et en fait, lui a pu faire une chose que personne d'autre pouvait faire parce que c'était le seul qui avait, si j'ose dire, les mains propres. Quand je parlais de la Roumanie ou de n'importe quelle autre dictature où personne n'ose dénoncer parce que, ben oui, je n'ai pas tué quelqu'un, mais j'ai quand même un peu participé au système, donc j'ai les mains liées. Et lorsque Christ vient dans ce monde, il est le seul qui peut dire à un moment, juste un peu avant la croix dans l'évangile, il a cette phrase incroyable, il dit « Le prince de ce monde vient, donc le diable, et il n'a rien en moi. Il n'a aucun dossier contre moi. Il n'a rien. » Parce qu'il était le seul qui était parfaitement pur. Hein. Ça serait l'exemple idéal de quelqu'un qui voudrait, je sais pas, ou faire de la politique. Ou, hein. Et puis, être complètement incorruptible, c'est qu'il n'y ait rien contre lui. Ce qui est presque impossible chez les êtres humains. Mais Christ, lui, l'a fait. Et à cause de ça, même s'il est passé par la mort n'a pas pu le retenir parce qu'en fait, il n'y avait rien contre lui. Hein. Parce que l'autre élément qu'il faut qu'on comprenne, ça peut paraître, j'imagine, un peu confus, mais on va lier tout ça dans un petit moment, hein. On met des choses là un petit peu. L'autre élément qu'il nous faut comprendre, c'est que la mort est une conséquence du péché. Au départ, Dieu a dit aux êtres humains, voilà, tu as des choix à faire, mais si tu fais ce choix-là, il y a une conséquence, c'est la mort. Mort spirituelle, qui était la fin de la connexion automatique et naturelle, plutôt, avec le Créateur. Et mort physique, au bout d'un certain nombre d'années, ben, ton corps s'arrête de fonctionner et tu meurs. Hein. Et puis, aboutissement de ces deux morts-là, la troisième mort, on pourrait dire, qui est la séparation d'avec Dieu pour toujours, hors de ce monde physique. Et donc, c'est le péché qui est à l'origine de la mort. Et c'est pour ça que Christ, en venant, lui-même exempt de péché, pur, les mêmes propres, sans corruption aucune en lui, il va affronter la mort en combat singulier et puis il va gagner parce qu'il est, la mort ne pouvait pas le retenir et il va régler pour nous le problème du péché puisque sur la croix, hein, Christ prend tout le péché sur lui, c'est le péché de l'humanité entière tant qu'elle existera et depuis qu'elle existe et à la place, il offre à ceux qui le veulent sa justice, sa sainteté, sa pureté. Et l'être humain reste libre d'accepter ce que Christ a fait ou pas, d'être mis au compte, plutôt que ce que Christ a fait soit mis sur notre compte. Hein. Comme s'il nous signait un chèque avec voilà, tout ce qu'il fallait pour sa pureté, sa sainteté, sa justice, à nous de le déposer ou pas, hein, de nous l'approprier, d'abord en le sachant bien sûr, et puis en l'acceptant, en le recevant, en y consentant, c'est ça la foi. Hein. Mais souvent, lorsque nous... Pour nous, chrétiens, nous avons vécu ça. Hein, je pense que ce matin, tout le monde est croyant, tout le monde connaît Christ, tout le monde est enfant de Dieu. Mais on peut quand même continuer de vivre dans l'esclavage alors que théoriquement, on n'y est plus parce qu'on garde les habitudes. Hein. Vous connaissez cette expérience qui s'était faite avec des requins. Hein. Un immense aquarium, on met des requins, une vitre super solide, et puis des poissons, nourriture pour le requin de l'autre côté de la vitre. Et puis le requin, pendant des semaines, se jette pour manger les poissons, se prend le nez dans la vitre. À chaque fois, ça fait très mal. Hein. Et puis au bout d'un moment, il tourne dans l'aquarium et à 3 mm de la vitre, il fait demi-tour comme ça. Hein. Et puis au bout de quelques, je ne sais plus, ces semaines ou mois, je ne me rappelle pas, mais j'avais vu le reportage en concentré, bien sûr. On enlève la vitre, mais le requin ne va pas manger les poissons. Bon, si les poissons passent du mauvais côté, tant pis pour eux. Mais le requin n'y va plus. Pourquoi ? Parce qu'il a pris une habitude et la réalité n'est plus là, mais il vit toujours pareil. Hein. Et en tant qu'être humain, nous naissons, nous grandissons, ben, bon, en sachant que nous sommes mortels. Et puis la peur de la mort nous tient dans l'esclavage. Et un jour, voilà, on comprend ce que Christ a fait, on est théoriquement délivré, mais pratiquement, on vit toujours comme avant. Hein, parce que ça fait toujours peur, parce que, etc. Et aussi parce qu'on est toujours, même si un jour on sera parfait, on est toujours corrompu hein, par le péché, par le mal qui est en nous. Et donc, il y a ces compromis en nous qui donnent une prise au diable pour nous tenir dans la peur et dans l'esclavage. Et c'est d'où l'importance de comprendre le principe de confesser nos péchés, à Dieu bien sûr essentiellement, aux hommes si c'est eux qu'on a offensés, mais sinon à Dieu. Dans ce que nous dit Jean dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Parce que dans le moment où je pêche, où je vais contre la volonté de Dieu, où je sors de l'ordre qui est Dieu au centre et moi autour, et où je reste dans ma vie avec ce péché consciemment, alors c'est le moment où je suis manipulable et où je peux être tenu dans la crainte, parce que j'ai quelque chose à me reprocher, et du coup je ne vais pas demander à Dieu de me protéger, de me défendre, et je vis dans la culpabilité, et puis c'est un cercle vicieux qui m'entraîne. Alors que si je vais devant Dieu, et puis que je dis, bah oui, j'ai péché, c'est pour ça que Christ est mort, tu es pardonné, tu es purifié, et je suis de nouveau libre. Et on doit avancer sur ce chemin, parce que la peur est jamais une bonne motivation, la crainte est jamais une bonne motivation, et elle nous tient prisonnières. Pour quelle raison le divertissement dans le mauvais sens, c'est normal de se divertir, mais nos sociétés sont basées sur le divertissement dans le sens de nous faire oublier ce qui est important. Pourquoi ça fonctionne? À cause de ce que nous disait Catherine au début, si j'accepte de prendre un moment dans le vrai silence, sans aucun divertissement, sans rien pour détourner mon attention, et que je commence à réfléchir, je prends peur. Parce que je réalise ce que c'est ma vie, ce qui se passe, ce qu'il y a. Plutôt je réalise qu'il n'y a rien peut-être, je vois le vide qui est en moi, toutes mes craintes qui sont là, et donc le divertissement est bienvenu, et on a poussé ça jusqu'à en faire un art, qui fait que maintenant l'être humain, j'allais dire normal dans nos sociétés, à nous, riches, etc., c'est pas un souci, il n'y a plus une seconde pour réfléchir. C'est trouver une seconde pour réfléchir, c'est un combat terrible. Et puis plus ça va, plus on progresse. Parce qu'avant, quand moi j'étais enfant, on disait « Oh, la télé empêche aux gens de parler ». Mais la télé, elle était dans la maison, il fallait l'allumer à certains moments, il y avait les parents. Mais maintenant, c'est permanent partout, tout le temps, et on va toujours plus loin. Mais s'il n'y avait pas ça, on inventerait autre chose. C'est pas la technologie qui est mauvaise, elle n'a aucun souci, la technologie. Mais voilà, le but, c'est de ne pas réfléchir, pour rester esclave, parce que le système de ce monde est basé là-dessus. Juste assez pour survivre et trop peu pour s'enfuir. Et puis, on s'enfonce toujours plus de compromis en compromis, et la peur est là derrière. Pour sortir de la peur, et c'est le travail de toutes nos vies, j'ai noté quelques points, il y a sûrement d'autres choses, mais la connaissance, l'espérance, et la foi et l'espérance et l'amour. La connaissance, c'est le point de départ. Si je ne sais pas les choses, je ne sais pas. Le requin, il ne sait pas que la vitre a été enlevée, il va continuer de tourner en rond sans passer de l'autre côté. D'abord, il faut savoir. Et c'est pour ça que c'est une des raisons, ce n'est pas la seule, mais c'est la première raison pour laquelle on lit nos Bibles, on l'étudie, on parle, on réfléchit, on lit des livres, on parle entre nous. On a parlé de l'amitié, un des versets sur l'amitié, c'est comme le fer aiguise le fer, l'ami aiguise l'ami. Donc on s'encourage les uns les autres à réfléchir et à avoir de la connaissance. Mais comme l'a aussi mentionné Catherine, très souvent, je sais, mais je vis autre chose. Parce que la connaissance, c'est le point de départ. Mais rien qu'avec de la connaissance, ma vie ne change pas. L'étape d'après, c'est justement l'espérance et la foi. L'espérance qui me dit, mais tu sais, il y a une autre façon de vivre. Il y a une autre... Oui, c'est pas qu'un mur, il y a une porte dedans. Cette porte, elle s'ouvre. Derrière cette porte, il y a quelque chose. L'espérance. Et l'espérance et la foi. La foi qui dit, il y a quelque chose de l'autre côté du mur. Il y a une porte dans le mur. Je le sais parce que l'espérance me l'a dit. Et par la foi, j'y consens. Je veux franchir cette porte. Je veux, peut-être que je n'ai pas la force, mais je veux le faire. Et la foi et l'espérance sont difficiles à dissocier l'une de l'autre, mais elles sont liées ensemble. La connaissance nous dit, il y a des choses qui existent, autres. la foi et l'espérance font que on croit que c'est possible et on décide d'aller dans cette direction, mais ça reste toujours de la connaissance et du futur. Et qu'est-ce qu'on a au présent ? Au présent, on a l'amour. On a ce magnifique verset dans Romains 5, 5 qui dit « L'espérance ne trompe pas, donc ne nous ment pas, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. » Et ça, c'est une action passée avec une répercussion présente, mais présente, donc qui sera aussi du futur et qui devient du passé, mais c'est toujours au présent. C'est comme ça que le temps dans le texte l'explique. Donc la connaissance nous amène à espérer, la foi se mélange avec l'information, et l'amour est celui qui vient rendre ça réel. C'est transformer l'information spirituelle en nutriments spirituels. Souvent, je donne cet exemple, je dis, la connaissance, c'est aller faire les courses. Je vais au marché, j'ai une liste de courses, et je dis, il me faut 2 poivrons, 2 concombres, 2 courgettes, du poisson, 2 oignons, de l'ail, du fromage, du lait, du beurre, ok. Et puis, je mets ça dans le frigo, ça, c'est la connaissance. L'espérance et la foi me disent, ah, qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Je cherche dans mon livre ou sur Internet une recette. Et puis voilà, ah, alors la recette, d'abord faire émincer les oignons, les faire revenir, rajouter le beurre, mettre la crème, ok, ça c'est super. Et puis en espérance, je lis la recette, je me dis, waouh, ce plat a l'air bon. Mais si je m'arrête là, je peux mourir de faim, avec un frigo plein, avec des livres de cuisine, et même en ayant préparé le repas éventuellement. L'étape d'après, c'est que je dois le manger. Et là, il se passe quelque chose, j'allais dire de surnaturel, non, de naturel. Ces aliments qui étaient extérieurs vont être incorporés par mon organisme avec plein de choses magiques qui se passent. Non, pas magiques, mais que Dieu a prévu. Et puis, voilà, ah, je reçois de l'énergie pour continuer de vivre. Et c'est exactement ce principe-là qui doit se passer pour nous libérer de l'esclavage, de la peur, de la mort. C'est que je dois avoir la connaissance, je dois m'en saisir par l'espérance et par la foi, et puis mélanger ça avec l'amour pour le consommer réellement. Et ça va être un travail de toutes nos vies, parce que ce n'est pas quelque chose qui est acquis. C'est quelque chose de la même façon qu'on mange, mais quelques temps après, on doit remanger. Bon, des fois, on mange trop souvent, ça c'est autre chose. On pourrait manger moins, parce qu'il y a aussi le principe de l'exercice. Une fois que j'ai mangé, je dois faire quelque chose de cette énergie. Et c'est d'ailleurs parce que je bouge, je vis, je fais des choses, que j'aurai de nouveau faim, que je ne vais pas juste stocker et faire du gras pour rien, et que je vais faire aussi du muscle, etc., etc. Donc il y a tout un équilibre, une hygiène de vie spirituelle, et on doit être dans ce rythme-là pour aller de l'avant. Et on a encore ce magnifique verset dans 1 Jean 4, 18, et je vous le lis dans la version Semeur parce que les secondes nous induisent un petit peu en erreur. Il dit, dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour véritable chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore arrivé à sa pleine maturité. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Dans les traductions second, il était parlé de l'amour parfait qui chasse la crainte. Puis on se dit, parfait, moi je ne suis pas parfait, donc c'est normal que j'ai peur. Non mais ce n'est pas parfait dans le sens sans faute. Le mot qui est traduit par parfait, d'ailleurs bien traduit ici, ça veut dire arriver à son plein développement, à sa pleine maturité. Si je dis David est un homme parfait, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'erreur, ça veut dire que maintenant il est pleinement développé, il est arrivé à sa pleine stature. C'est plus un petit bébé, quoi. Voilà. Maintenant, après, ça redescend. Non, mais c'est ce sens-là. Donc, l'amour qui arrive à maturité et qui va toujours continuer de se développer toutes nos vies, a pour conséquence de chasser la crainte. Parce que la crainte et la peur, c'est un peu comme le noir ou les ténèbres dans une pièce. C'est pas réel, c'est juste une absence de lumière. Et la crainte, c'est comme ça. La crainte, c'est une absence de confiance, c'est une absence d'amour. Elle est générée par le vide en nous. Et c'est pour ça qu'on vit tellement dans ce que j'ai appelé le divertissement, mais en comprenant le sens, faire l'autruche, une autre façon de dire, Parce que comme ça, je ne suis pas conscient du vide qui amène la peur, parce que je suis trop occupé. Hein. Ce n'est pas que je ne suis pas en danger, c'est que je suis inconscient. Parce qu'une petite chose que je n'ai pas dit qui est très importante, le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur de la mort, c'est être fou. Hein. Mais le courage, c'est de savoir et puis de pouvoir franchir les choses. Hein. Quand j'étais jeune étudiant, je travaillais comme peintre en bâtiment pour nourrir ma famille et pour manger. Et j'avais pas peur du vide. Mais c'était pas que j'étais courageux, c'était de la stupidité mélangée avec de l'inconscience. J'avais pas le vertige. Et puis quand on travaillait, donc je faisais des choses absolument stupides. Hein. Travailler debout sur la rame d'un balcon au 15e étage sans être attaché. Passer d'un immeuble à l'autre sur une planche de 20 cm en tenant des trucs lourds dans les bras à 30 mètres du sol. Et j'avais pas peur. Mais j'étais idiot. Parce qu'il y a des gens tous les jours qui tombent et qui meurent. Parce que j'avais une famille avec des enfants. J'avais même pas d'assurance vie. Donc, hein, donc là, le courage, c'est pas ça. Ça, c'est de la bêtise. La mort est terrifiante. Parce que la mort, c'est la fin. Parce que tout s'arrête, etc. Si on est dans ce principe de ben oui, je suis lié par le péché, et puis après la mort, c'est terrible, etc. Mais il y a une nouvelle information qui est là. Christ a vaincu la mort. Dans 1 Corinthiens 15, je ne vais pas le lire, mais c'est le chapitre de la résurrection, où Paul dit « Ô mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Un jour, tu seras vaincu. » Et donc, on a besoin d'avoir tout ce processus dans nos vies, parce qu'en fait, ça paraît un peu négatif dit comme ça, mais le grand but de toutes nos vies, c'est de se préparer à ce qu'on appelle la mort. Sauf que, avec justement les fausses informations et la crainte qui nous tiennent dans l'esclavage, on ne réalise pas ce que ça veut dire. Et on a besoin de toute une vie de connaissance de la pensée de Dieu, d'espérance et de foi, en étant rempli par l'amour, pour sortir concrètement de cet esclavage. Parce que, que nous apprennent les Écritures et que nous dit Christ, il a vaincu la mort. Et en fait, nous avons reçu la vie éternelle. Dans Romains 6, je vous lis quelques versets, 14. « En effet, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc, allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certainement pas. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez? Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté, pour fin la vie éternelle. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » La vie éternelle, vous vous rappelez, je ne vais pas revenir là-dessus en détail, mais ce n'est pas quelque part, c'est en Jésus-Christ, maintenant déjà, et pour après, pour chaque moment. Donc ce qui nous est rappelé ici, c'est qu'on est toujours esclave de celui à qui on obéit, de celui à qui on se vend, de celui qui me donne juste assez pour survivre et trop peu pour m'enfuir. Et je peux vivre dans l'illusion que oh, mais moi je maîtrise, comme les gens qui sont dans une dépendance, quelle qu'elle soit, et qui disent « moi je m'arrête quand je veux ». Mais ils ne s'arrêtent pas. « Je m'arrête quand je veux ». Ouais, ils vivent dans l'illusion, mais ils ne s'arrêtent pas quand ils veulent, parce que justement ils sont dans la dépendance. Et Christ nous a libérés de cette dépendance qui venait par le péché, mais ce qu'on a du mal à accepter, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'état intermédiaire, il n'y a pas de Suisse neutre dans le domaine spirituel. Soit je suis esclave du péché, avec la peur de la mort qui me tient et toutes les conséquences, les compromis, soit, après que j'ai été libéré par l'œuvre de Christ, je choisis volontairement de me faire l'esclave de l'obéissance à Dieu. Mais entre les deux, il n'y a pas de terrain neutre. Alors on peut dire, mais moi, si j'ai été libéré, ce n'est pas pour devenir esclave de Dieu. Ok, pas de souci, ben reste esclave du péché et de la mort. Oui, mais moi je voudrais. Oui, oui, moi j'aimerais avoir trois bras, j'aimerais être intelligent, j'aimerais être beau, j'aimerais. Mais ce n'est pas la réalité. Il n'y a pas de terrain intermédiaire. Et ça, c'est une des choses qui doivent arriver à notre connaissance, qu'on doit comprendre, qu'on doit accepter, et après on fait nos choix. Il n'y a pas d'état intermédiaire. Et on a un très bel exemple dans l'Ancien Testament, dans le Deutéronome. Bon, c'est pas dans le Lévitique, je dois dire Lévitique, mais c'est dans Nombre et dans Exode et dans Deutéronome. Hein. Mais lorsque un juif se vendait comme esclave dans son propre pays, parce que la misère poussait des gens à le faire, au bout de 6 ans, il fallait le libérer, parce qu'on n'avait pas le droit d'exploiter son propre frère de nationalité. Il fallait le relâcher au bout de 6 ans. Et en plus, la loi prévoyait, je ne vous lis pas le texte, je peux vous le donner après, qu'il fallait lui donner de quoi subsister pendant un certain temps. Hein, parce que justement, si on disait à un esclave qui avait été esclave 6 ans, « Bon, maintenant, tu veux ta liberté ou tu veux rester chez moi ?» Le gars dit, ouais, et si je pars, je mange avec quoi demain ? Donc, hein, c'est toujours le même principe. Soi-disant libre, mais toujours esclave. Et donc, la loi prévoyait qu'il fallait, en fait, le payer pour les 6 années qu'il avait travaillé. Peut-être pas un tarif exorbitant, mais avec ça, il avait de quoi vivre au moins 1 année ou 2. Et puis, du coup, il pouvait repartir dans la vie. Hein. Mais si l'esclave disait, mais en fait, le travail que je fais dans cette maison me plaît, les gens pour qui je travaille, ils sont bons, ils sont honnêtes, ils sont intelligents, on s'entend bien. J'ai pas envie de partir ailleurs, recommencer à vie, à travailler pour quelqu'un d'autre qui sera peut-être méchant. Je préfère travailler dans cette maison, je m'entends bien avec eux, j'y suis bien. Hein. Alors, il y avait un rituel, cet homme-là allait sur le montant de la porte, on lui perçait l'oreille, mettait un anneau là, et puis ça voulait dire qu'il était librement esclave pour toute sa vie de cette maison. Hein. Et dans ce cas-là, paradoxalement, c'était un homme libre. Et vous voyez comment on peut être libre et esclave, ou esclave et libre. Hein. C'est assez intéressant comme idée. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés. Christ est mort pour nous libérer du péché, de la porte de la mort et de ces choses-là. Mais pour que ce soit effectif dans nos vies, il faut que je fasse le choix de devenir... Alors, le texte dans la Bible dit esclave. On n'aime pas ce mot justement parce qu'on dit enchaîné. Mais il est important ce mot. Pourquoi esclave ? Parce que c'est l'un ou l'autre. Hein. Bien sûr, on n'est pas esclave de Dieu. Et lui-même dit, je ne veux pas que vous soyez mes esclaves, je veux que vous soyez mes amis. Donc, ce n'est pas qu'il nous veut dans l'esclavage. Mais si je ne prends pas la décision de vivre dans l'obéissance à la pensée de Dieu, alors de fait, je reste dans l'esclavage du péché, avec toute la crainte et la corruption qui est là. Et il n'y a pas d'intermédiaire. Hein. Et donc, dans ce processus de libération... Comme je l'ai dit, ça commence par la connaissance. Et je veux juste te donner quelques éléments de connaissance qui sont importants. Premièrement, on doit dissocier certaines choses. Vous savez que quand on ne comprend pas, on a peur. Hein. L'action souvent de nos politiques est basée là-dessus. Hein. Pour nous faire accepter quelque chose, on nous fait peur. Et puis parce que j'ai peur, je suis prêt à signer n'importe quoi. Hein. Et quand on mélange des choses, elles deviennent incompréhensibles. Lorsqu'on dit le mot « mort », on mélange plusieurs choses. Est-ce que j'ai peur de ce que je vais trouver quand j'aurai quitté cette vie ? Est-ce que j'ai peur de la déchéance et de la souffrance qu'il y a avant de quitter cette vie ? Est-ce que j'ai peur à l'idée de la tristesse de plus voir ceux qui seront partis ou quand moi je serai parti de ceux que je vais laisser ? C'est 3 sujets complètement différents. Et puis, nous, on ne réfléchit pas à ça. Donc, ça reste un gros boum de peur. Et « Ah, j'ai peur, alors qu'est-ce que je fais ?» Hein ? Voilà. Je connais des personnes très âgées, mais vraiment, passé 90 ans, qui vivent comme si elles étaient éternelles. La seule chose, elles ont décidé de ne plus fêter leur anniversaire. Ça fait rire, hein, mais c'est triste. Voilà, non. On continue de s'habiller jeune et on ne fête plus nos anniversaires. Mais voilà, hein, c'est une façon d'essayer de fuir cet esclavage de peur. Donc on doit déjà séparer les choses. Et la partie qui est simple pour nous chrétiens, c'est de se débarrasser de la peur de après cette vie. Ben, je trouve que c'est relativement simple. Hein, parce que là, on a plein d'images. Ben, on pense par exemple au bébé dans le ventre de sa mère. Quand il va quitter ce ventre-là, c'est pour arriver dans notre monde. Alors pour lui, c'est un traumatisme, la naissance. Mais c'est super, il est attendu de l'autre côté avec plein d'amour, on attend qu'il arrive. Hein. Et puis on a cette image-là, Dieu au ciel attend qu'on accouche de ce monde pourri là où on souffre, même si nous on a l'impression que c'est le meilleur parce que c'est le seul qu'on connaît. Et puis tout d'un coup on va être expulsé dans un monde où, ah, waouh, c'est comme ça. Ah mais ici il y a de la lumière, ah mais ici il y a du... Donc ça c'est, je dirais, c'est un travail à faire, mais ce n'est pas le plus difficile. Après, il y a les autres. Hein. Ben, pour la souffrance, voilà, la médecine moderne nous apporte un peu d'aide, un peu beaucoup. Et puis, on a la promesse que Christ est avec nous dans ces moments difficiles. Pour la tristesse de la séparation, c'est la même chose. Et c'est pour ça que c'est bien de dissocier ces choses-là, parce que certains chrétiens, justement, pensent qu'un bon chrétien qui n'a pas peur de la mort, ben voilà, quelqu'un que j'aimais est mort, alléluia, gloire à Dieu, il est au ciel, on va se revoir, c'est super. Non, c'est dramatique, c'est terrible, parce qu'il y a la séparation, parce que peut-être il y a eu de la souffrance avant, parce qu'on va plus se voir. Hein. Mais si chaque sujet est séparé, mélangé avec l'espérance, avec la foi, et puis surtout que c'est vécu au jour le jour en étant rempli de l'amour qui occupe tout l'espace vide, alors on va pouvoir vivre avec moins de peur. Je ne dis pas sans peur, il faut être réaliste. Avec moins de peur, et toujours moins, et toujours moins. Et on a besoin de progresser là-dedans et de s'y encourager les uns les autres. Et sinon, ben, je reste esclave. Hein. Et puis, pendant ce chemin, c'est pour ça que c'est important de viser la sainteté ou la pureté, qui ne veut pas dire ne pas faire d'erreur, qui veut dire ne pas y rester dedans. Parce que toutes les périodes où je suis dans le mal, mais que je ne veux pas le confesser parce qu'il y a un certain plaisir des fois dans le mal et que je veux essayer d'en jouir, ben, je me prive de la présence de Dieu et du coup la peur est là. Hein. Et c'est là où le cercle vicieux est terrible parce que je suis dans la désobéissance parce que je veux faire quelque chose qui n'est pas correct. Et du coup, comme cette désobéissance me prive de la présence et de l'amour de Dieu, j'ai encore plus peur. Pour oublier cette peur, je m'enfonce dans ma désobéissance. Et là, je suis dans une spirale qui me tire vers le bas. Hein, et qui est, voilà, hein, c'est la spirale de toutes les dépendances, du mal qui nous tire vers le bas. Et là, la peur est terrible. Mais lorsque je vis le contraire, ok, je ne suis pas parfait, donc je chute des dizaines de fois. Mais dès que je... Oh, Seigneur, j'ai péché, j'ai mal agi, j'ai eu tort. Là, je viens devant toi, tu me purifies. Et là, l'amour de Dieu me remplit et pendant ce petit moment-là, j'ai plus peur, même pas peur. Et je peux faire un pas, mais de nouveau, ah, je suis vide, j'ai peur, et on doit comme ça. Hein. Et puis, construire des images positives, pas parce qu'on les a inventées, hein, parce qu'elles viennent de la révélation que Dieu nous a donnée pour se débarrasser de cette peur. Paul, par exemple, dit « Être absent de ce corps, c'est être dans la présence du Seigneur. » Alors, comment ça se passe, là ? Est-ce qu'on s'endort, on se réveille après ? Est-ce qu'on est conscient ? Est-ce qu'on n'est pas conscient ? On n'en sait rien. Mais, par exemple, ça, c'est une chose qui est clairement affirmée. Hein. Être absent de ce corps, c'est être dans la présence du Seigneur. Donc, m'habituer à vivre avec cette idée que le jour où je laisse moi, j'aime bien l'appeler mon véhicule de location terrestre, hein, mais c'est juste, c'est un véhicule. Ce que je suis, qui je suis réellement, ça s'arrête pas. Hein. Le jour où je vais abandonner ce tas de ferraille tout rouillé, tout pourri, qui ne vince plus, pour passer dans cette vraie vie après, passer par cet accouchement, à la seconde même, je suis dans la pleine présence du Seigneur. Ce que ici, je souffre pour essayer d'y arriver, j'y arrive pas, j'en ai pas envie, je sais pas le faire. Donc, il y a une attente positive qui ne veut pas dire que je ne deviens pas suicidaire, je ne me réjouis pas de vieillir et de mourir. Hein. Je l'aime quand même, mon véhicule de location, même s'il est abîmé. Mais de vivre jour après jour avec ces pensées-là, ça nous aide. Hein. Quand on pense à la mort, on pense au noir comme couleur, en général. Hein. Pourquoi ? Ben oui, pourquoi ? Parce qu'il y a cet esclavage. Mais non, c'est être dans la présence du Seigneur, donc c'est la lumière, hein, etc. Alors après, comme j'ai dit, il y a d'autres sujets qui se mélangent et qui doivent être traités différemment et qui sont réels et auxquels on doit faire face. Mais on a besoin de la pensée de Dieu, de son esprit, pour nous libérer de tout ça et puis faire chaque jour le choix de dire à Dieu, pour aujourd'hui, j'ai que deux choix, esclave du péché ou esclave volontaire de ton amour. Alors je choisis. Et chaque jour, on doit spirituellement aller devant la porte et puis dire à Dieu, oui, perce mon oreille pour cette heure, pour ces deux heures, pour cette journée. Je veux vivre avec toi pour vivre libre. Et puis ben, on retombe, on recommence, etc. Mais toujours faire ce travail et on va petit à petit expérimenter la liberté que Christ nous a acquise. Seigneur, Tu sais combien ces pensées, ce sujet est lourd, dramatique pour nous, compliqué, ça nous fait peur, surtout quand des situations concrètes s'approchent. Et il n'y a pas de recette, il n'y a pas de truc magique, on ne veut pas aborder ça avec superficialité ou légèreté. Mais tu nous as fait des promesses et on veut les connaître, on veut se les approprier par la foi, par l'espérance, et on veut les vivre au présent par ton amour, qui détruit toute crainte, qui chasse toute crainte. Alors ce que nous ne sommes pas capables de fabriquer, donne-nous le courage de le choisir. Aide-nous à faire le choix de venir dépendre de toi plutôt que de mettre la tête dans le sable et d'essayer d'oublier la réalité. Et puis donne-nous la force de nous encourager les uns les autres. Donne-nous la sagesse, donne-nous l'amour les uns pour les autres, l'amitié, pour nous encourager sur ce chemin et pour que nous puissions progresser en étant de plus en plus des femmes et des hommes libres, libres de t'aimer, libres de te choisir, libres de te servir, libres de t'obéir. Et puis c'est tellement pas naturel à nos cœurs. Mais viens faire ça par ta vie, par ton esprit en nous, afin que nous puissions vivre de la vie éternelle chaque jour et jusque dans l'éternité.